Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à notre radio et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens présentés en partenariat avec le site d'information Atlantico. Au mois de mai 2016, dans un entretien exclusif accordé au quotidien La Croix, le pape François déclarait à propos de la France qu'elle était certes la fille aînée de l'Église, mais qu'elle n'était pas pour autant la plus fidèle. Plus loin, il ajoutait à propos de la laïcité française qu'elle était une laïcité exagérée, dans la mesure où les religions étaient considérées dans notre pays, je cite, « comme une sous-culture et non comme une culture à part entière ». Le pape n'avait-il pas affirmé d'ailleurs à un groupe de socialistes chrétiens quelques mois auparavant, je le cite toujours, « La France devrait faire un pas en avant à ce sujet pour accepter que l'ouverture à la transcendance soit un droit pour tous ». Depuis la Révolution française, l'histoire des relations entre Rome et Paris semble faite de tensions et de déchirures, d'anathèmes et de condamnations, mais aussi de considérations réciproques, d'échanges cordiaux et parfois même chaleureux entre les deux parties, comme si la réconciliation entre la France d'une part et le Vatican d'autre part était une forme de déterminisme historique. Storia Voce vous propose de mieux comprendre cette relation à l'époque contemporaine. Quels furent les liens politiques entre France et Saint-Siège depuis la Révolution? Comment les papes ont-ils vu et voient-ils notre pays? Quelles étaient les attaches culturelles entre la ville lumière et la ville éternelle? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer, un petit rappel traditionnel afin de pouvoir se développer, de proposer bien plus d'émissions. Storia Voce a besoin de votre soutien. Je vous donne rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com ou en bas de la page de cette émission, toujours sur notre site storiavoce.com. Notre association compte sur vous. Martin Dumont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Martin Dumont, vous êtes docteur en histoire, vous êtes secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la papauté. Votre thèse de doctorat a été consacrée à un sujet extrêmement intéressant qui est le sujet du ralliement. Elle a été publiée, votre thèse, chez Honoré Champion. Nous allons un peu en parler tout à l'heure. Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement 1890-1902. Et vous venez de publier aux éditions du Cerf La France dans la pensée des papes, un livre qui tient à présenter en fait les relations, comme je le disais en introduction, entre d'une part la France et d'autre part le Saint-Siège au temps contemporain. Quand on évoque la France et le Saint-Siège, Martin Dumont, on pense toujours à l'expression « France, fille aînée de l'Église ». De quand date cette expression ?
Alors l'apparition de cette expression est assez tardive. Elle est largement postérieure à la Révolution française dans les discours pontificaux. En fait, on peut retrouver une expression relativement semblable, mais qui s'adressait au roi, qui était fils aîné de l'Église. Le roi était le fils aîné de l'Église.
Le roi de France.
Le roi de France, voilà. Le roi de France était le fils aîné de l'Église. C'était une forme de dommage. On trouve cette expression dans la bouche d'Alexandre VI, au XVIe siècle, je crois. Voilà, en hommage au roi de France, mais c'est une expression qui tend à rendre hommage aux relations particulièrement intenses qui existent entre la France et la papauté. L'apparition en fait dans les discours pontificaux de l'expression fille aînée de l'Église est assez tardive, puisque il semble que ce soit le pape Léon XIII qui soit le premier à l'utiliser. L'apparition en France dans la bouche de laïcs ou de religieux, on l'attribue traditionnellement au père Lacordaire dans un discours à Notre-Dame de Paris, mais il semblerait que ce soit plutôt dans des correspondances de Frédéric Ozanam qu'on puisse en retrouver les premières mentions.
Donc c'est un terme contemporain. Est-ce qu'on peut le qualifier un peu de terme romantique?
Ça apparaît effectivement en pleine période romantique. Il s'agit en fait de montrer qu'il y a une pleine continuité entre l'Ancien Régime et le nouvel état de la situation, même si évidemment nous ne sommes pas encore, ce n'est pas sous Louis-Philippe que l'expression apparaît, c'est sous donc les deux monarchies qui suivent le rétablissement. Donc c'est après Louis XVIII, on a Charles X, et il s'agit de dire au pape, voyez, voyez comme les Français vous aiment, en fait. Mmh. Voilà.
Alors, on sait que comme là encore, je l'expliquais dans l'introduction, la Révolution, nous allons le voir, constitue une coupure dans les relations, mais il ne faut pas avoir une vision, pour le coup, romantique des relations entre la France, d'une part, et le roi de France avant la Révolution française. Il y a eu des relations très tumultueuses à travers les âges.
Oui, absolument. Il y a eu des périodes, on pourrait dire, pas forcément idylliques, mais en tout cas de beaux moments de relations entre le pape et la France. Mais il y a eu également des épisodes fameux. On pense par exemple à l'attentat d'Agnani au XIVe siècle de Philippe le Bel. En fait, les relations entre Philippe le Bel
et
Boniface VIII, voilà absolument, qui entraîne un attentat contre la personne du pape de la part d'un envoyé en fait du roi de France. Et puis on pourrait voir également d'autres relations. On pense par exemple la révocation de l'édit de Nantes, l'écho qu'il rencontre à Rome est beaucoup plus froid que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc non, les relations entre la France et le Saint-Siège sont beaucoup plus complexes que un supposé âge d'or ou en tout cas des périodes absolument merveilleuses jusqu'au moment où arriverait la Révolution qui briserait tout. Mmh. Il y a eu des hauts et des bas comme dans toute famille. Dans toute,
voilà. Alors vous expliquez dans votre introduction. Il y a un titre que peut posséder le président de la République, c'est celui de chanoine honoraire du Latran. À quoi correspond ce titre? Et en fait, on s'aperçoit en étudiant l'histoire qu'il date bien avant la Révolution française.
Oui, alors le titre exact, mais je pense que vous le savez également mieux que moi, c'est premier et unique chanoine honoraire de la basilique du Latran. C'est le titre remonte à Henri IV, à la période de donc au XVIe siècle. Henri IV qui monte sur le trône de France et en remerciement envers Rome qui a, on peut dire, considérer que le fait que un roi se convertisse, et enfin Henri IV était protestant, et donc finalement le pape approuve la montée sur le trône d'Henri IV, et le roi va donner au chapitre du Latran l'abbaye de Clairac et ses revenus. Donc au chapitre cathédral du Latran, et en remerciement de ce geste du roi qui n'était pas, il y avait déjà eu des largesses, hein, des libéralités de la part de rois précédents, en remerciement le chapitre du Latran décide de conférer à Henri IV le titre donc de premier et unique chanoine honoraire du Latran, et également de faire célébrer des messes pour le bonheur et la prospérité de la France chaque année, le 13 décembre, jour anniversaire en fait du Béarnais, d'Henri IV.
Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, on ne sait pas encore si le président de la République Macron, Emmanuel Macron, va aller recevoir son titre. Vous avez une information sur le fait qu'il va l'accepter ou non?
Alors, je ne sais pas quand est-ce que Emmanuel Macron va y aller, mais en tout cas, officiellement, je crois que ça date il y a un mois à peu près, il y a eu un échange de dépêches et de communiqués pour indiquer que le président Macron acceptait ce titre.
Ce que n'ont pas fait tous les présidents.
Ce que n'ont pas fait tous les présidents, effectivement, pour des raisons... qu'il est regardé, enfin c'est des questions, enfin qui pouvait les regarder personnellement. C'est vrai que on pensait évidemment à François Hollande, bon, dans un contexte extrêmement particulier, mais d'autres présidents avant lui n'avaient pas fait le déplacement non plus, sans que les relations entre la France et le Saint-Siège en pâtissent pour autant.
Alors les liens entre la France et le Saint-Siège, bon, ont été un peu tumultueux sous François Hollande, c'est clair. Mais malgré tout, on va dire que depuis une trentaine d'années, ces relations semblent positives. Or, c'est une chose très récente. C'est-à-dire, les bonnes relations entre le Saint-Siège et Rome sont très récentes.
En fait, il y a eu une évolution, on peut dire, depuis le rétablissement
des relations diplomatiques.
Mmh. Donc il y a eu la séparation des Églises et de l'État en 1905, avec l'expulsion du représentant en fait du Saint-Siège à Paris, et donc en 1906, et c'est en 1921 qu'il y a le rétablissement en fait de l'ambassade de France près du Saint-Siège, et progressivement un certain apaisement peut être observé dans les relations, mais ça remonte à plus de 30 ans en fait des bonnes relations. C'est vraiment au fil du XXe siècle que les relations vont ne pas cesser de s'améliorer, chacun en fait trouvant son intérêt. Mmh. La France y voyant en fait un moyen d'expansion vers l'extérieur, et puis le Saint-Siège évidemment trouvant naturel que celle qui a été considérée pendant si longtemps comme étant une fille chérie puisse effectivement entretenir avec elle des bonnes relations.
Il y a ce que vous qualifiez dans votre premier chapitre, un lien charnel entre Rome et Paris. Le titre de votre ouvrage, c'est « La France dans la pensée des papes », hein, c'est bien cela. Comment ces papes considéraient-ils cette France de la Révolution à aujourd'hui? Comment la percevaient-ils de manière générale? Ils voyaient cette fille chérie que vous évoquiez à l'instant?
Alors là encore, peut-être qu'on peut effectivement y retrouver ce que vous disiez au début en disant est-ce que fille aînée d'église, ça serait pas quelque chose de romantique. En fait, il y a vraiment c'est très surprenant, enfin pour moi qui connaissais effectivement le pontificat de Léon XIII, qui a un peu travaillé ensuite sur le pontificat de Pie XI, une véritable découverte en fait de constater que les papes parlant de la France cherche vraiment à en parler avec beaucoup de mesures et de même Piscis par exemple qui vraiment vit au cœur évidemment de la Révolution au moment de la Révolution française va parler de la France avec beaucoup de considérant que la France a été tellement liée a eu une part tellement importante en fait dans la vie de l'Église universelle que il faut vraiment rappeler à la France toutes ces qualités plutôt que de dire d'essayer de condamner. Et on va en fait vraiment le véritable tournant, c'est Pie IX, les États pontificaux, l'unité italienne en fait, et la part très importante que vont apporter des habitants de la France, des personnes les plus simples, et qui vont montrer en fait au pape leur amour pour le chef de l'Église universelle.
Peut-être rappeler le contexte, les papes perdent leurs états, ils dominaient une partie de l'Italie qui prenait l'Italie en écharpe, et donc le pape est prisonnier au Vatican et il n'a plus de source de revenus et reçoit ce qu'on appelle le denier de Saint-Pierre, mais pas seulement, de l'aide du monde entier.
Oui, absolument. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est qu'avant même en fait de perdre ces états pontificaux, il y a des volontaires internationaux, donc on va appeler les zouaves pontificaux, qui viennent en aide et qui viennent servir d'auxiliaires en fait aux troupes pontificales pour défendre les territoires, ce qu'il reste en fait les territoires pontificaux face aux patriotes italiens. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que il y a une relation extrêmement forte qui se noue entre les papes et la France. Après, au fil du temps et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, on peut vraiment constater, c'est quelque chose de nouveau et de vraiment spécifique à la France. C'est pour ça que j'ai parlé de lien charnel, c'est que les papes connaissent réellement la France, ils connaissent des auteurs, ils ont les possibilités de voyager, ça s'améliore, et donc ils vont notamment aller à Lourdes, ils vont aller à Lisieux, Jean XXIII par exemple va aller à Paris, énonce à Paris, donc ils connaissent, quand ils parlent de la France, ce n'est pas une connaissance, on va dire théorique, ils pourraient dire la France c'est un pays merveilleux, bon voilà très bien, mais quand ils en parlent, On sent véritablement chez eux
un amour profond.
Ouais. Jean-Paul II, avant même d'être pape en 1947, quand il vient en France, il connaît déjà l'histoire de la France et lui en plus, en tant que Polonais, considère qu'il y a un lien très très fort
entre son pays natal
et ensuite après, évidemment, entre l'Église et la France.
Ces papes parlent français ?
Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Léon XIII, je ne suis pas sûr qu'il parle français. Pilis, quand il va au conclave, ne sait pas parler français, ne connaît pas le français. Il considère que, quand on lui dit, est-ce que éventuellement vous pourriez être pape, il lui dit, il me manque quelque chose de fondamental, c'est que je ne connais pas le français.
Qui était la langue de la diplomatie.
Qui était une langue de la diplomatie, qui était une langue extrêmement répandue, une des langues les plus importantes. Pie XI connaît très bien le français. Et puis surtout, Pie XII a une excellente maîtrise de la langue française. Il est honoré par l'Académie française, justement, à cause de son excellente maîtrise de cette langue. Et je voudrais juste éventuellement attirer effectivement l'attention des auditeurs sur le fait que, en fait, le pape François est considéré comme ne connaissant pas la langue française, mais il avait été interrogé il y a quelques années par deux journalistes argentins. Et en fait, il leur expliquait que il a perdu la maîtrise de la langue française, mais qu'à une époque, il maîtrisait extrêmement bien le français. Le français faisait partie des langues, ce qui explique qu'ils connaissent très bien des auteurs français, et donc qu'ils puissent s'en inspirer parfois.
Alors, vous avez travaillé, je le disais au début de l'émission, dans le cas de votre thèse, sur les catholiques français et la question du ralliement. Et parler du ralliement, c'est évidemment évoquer la question de la République qui apparaît avec la Révolution française. La Révolution française, c'est une rupture profonde dans les relations entre la papauté et la France.
Le début de la Révolution n'est pas forcément un choc religieux, mais cela arrive très vite. En 1790, on a ce qu'on appelle la Constitution civile du clergé, qui est votée par l'Assemblée, et la nationalisation des biens du clergé également qui est votée. Et il va y avoir un phénomène de déchristianisation extrêmement violent pendant quelques années. On va appeler ça la déchristianisation de l'an 2. Des prêtres qui refusent de prêter serment de fidélité à la République sont déportés, certains sont guillotinés. On pense évidemment au massacre de septembre. Il y a des églises qui sont fermées. La séparation des églises et de l'État est proclamée en 1795. Donc il y a un phénomène effectivement de rupture qui est ressenti très douloureusement à Rome, et puis on assiste également en fait à l'emprisonnement de Pie VI qui meurt en fait à Valence en résidence surveillée. Donc on a effectivement dans l'imaginaire collectif, et puis surtout dans un certain nombre de faits, il y a effectivement cette perception que la Révolution a cherché à détruire ce qui constituait une des bases en fait de l'unité de ce qui était le royaume, mais surtout il y avait des relations très fortes qui existaient, et on a eu le sentiment effectivement que la Révolution avait cherché à détruire ces relations existantes entre donc la France et puis la papauté.
Et pourtant le 19e siècle sera appelé le siècle des congrégations. Les congrégations jouent un rôle absolument majeur, et notamment à la fin du 19e siècle, dans supportant l'idée ou participant, j'allais dire, à l'expansion coloniale. Quelle est vous évoquiez tout à l'heure 1870, la Pie IX. Quelle est la position, par exemple, d'un Napoléon III vis-à-vis de la papauté?
La position de Napoléon III est complexe. Bon, comme c'est une synthèse, effectivement, il y a certains sujets que j'ai pas forcément creusés. Simplement, Napoléon, on pourrait dire très schématiquement qu'il y a deux phases.
Oui.
Donc d'abord, il y a un soutien effectivement au pape, donc c'est le prince président avant même d'être empereur qui décide de l'envoi effectivement de il y a l'envoi d'un corps expéditionnaire français qui est maintenu ensuite donc en 1848-1849.
C'est très important ça parce que vous l'évoquez d'ailleurs sur le plan politique, il y a une sorte de vocation française à protéger les chrétiens d'Orient et cela se fait de concert avec la papauté.
Oui, absolument. Mais ça c'est comment dire, comment expliquer la chose de manière simple, c'est qu'en fait le pape, là en l'occurrence c'est déjà Léon XIII, considère que la France par rapport aux chrétiens d'Orient hérite en fait d'une mission de par l'action qu'elle a eue par le passé lors des croisades. C'est parce que Saint-Louis notamment, mais avant lui Philippe-Auguste, ont participé aux croisades, ont cherché à délivrer, à libérer Jérusalem de l'emprise musulmane, que naturellement la France peut jouer un rôle en Terre Sainte. Et l'action, par exemple, effectivement, de Napoléon III en Crimée est considérée aussi comme entrant naturellement dans ce processus de défense et de protection des chrétientés en Orient. Ça fait partie de la mission naturelle, on va dire, de la France. On va dire aujourd'hui, parler de mission naturelle, évidemment, c'est ça pourrait être considéré comme une vision dépassée, mais en l'occurrence pour les papes, on considère que c'est le rôle de la France de défendre les chrétiens, les chrétientés, et ce qui va entraîner, alors déjà effectivement chez Pie IX, mais après c'est vraiment de manière éclatante chez Léon XIII, en quelque sorte un déséquilibre dans l'attribution de protectorat en Palestine, donc en Terre Sainte. Léon XIII va décider d'accorder, on peut dire, une primauté d'honneur et à la France, à Jérusalem, par rapport aux missionnaires, par rapport à la place en fait que peuvent occuper certaines nations à Jérusalem. Ville sainte entre toutes.
Il y a un aspect intéressant, et restons sur Léon XIII précisément, parce qu'encore une fois c'était le sujet de votre thèse. Une première perception amènerait à voir les choses de la façon suivante. Il y a le pape, il y a la politique de ralliement du pape à la République, et il y a le peuple des catholiques. Et ce peuple des catholiques reçoit très différemment, et c'est même étonnant, ce que vous montrez dans votre thèse, la façon dont les catholiques reçoivent ce ralliement. Il y a différentes réceptions, en quelque sorte, du ralliement.
Oui, alors ça tient peut-être à deux éléments, enfin même si évidemment l'événement est extrêmement complexe. D'une part, en fait, on va avoir les simples catholiques qui eux vont essayer de suivre tant bien que mal effectivement les directions pontificales, pour autant qu'elles puissent être réellement compréhensibles. Mais en fait, là, on retrouve effectivement l'événement révolutionnaire, l'instauration de la République et une politique anticléricale qui est menée pendant une dizaine d'années, à partir de 1870-1880, en fait, très exactement, donc avec l'expulsion des congrégations, vraiment la lutte pour réduire l'influence de l'Église dans la société, et un certain nombre de catholiques ne comprennent pas en fait cette demande du pape de considérer la République comme étant un gouvernement comme un autre. Pour un certain nombre de catholiques, la République est certains ont pu dire, on peut parler de l'illégitimité de la République. L'idée en fait du pape est de considérer que il faut retrouver la pacification, oui, religieuse des esprits. Mais en fait le pape ne dit pas Quel est le projet qui est en arrière-plan? Quel est le projet politique qui est en arrière-plan? Et donc chacun effectivement va tenter d'interpréter dans un sens ou dans un autre, et même parmi ceux qui disent les monarchistes refusent en fait de suivre les demandes pontificales parce que ils considèrent que la République pour eux évidemment ils ne veulent pas reconnaître la République parce que ils considèrent que ils se veulent soutenir un roi, mais parmi ceux qui cherchent à suivre les directions pontificales, on peut très schématiquement, parce que peut-être c'est spécifique au catholicisme français, mais vraiment on a l'impression que chacun suit sa propre direction. Mais on peut observer par exemple d'un côté les Augustins d'Assomption qui dirigent la croix, qui disent nous on reconnaît la République, on reconnaît les demandes pontificales, mais ce que nous voulons, ce que nous cherchons à appliquer et obtenir, c'est une République chrétienne. Et puis de l'autre côté, donc ça va être les partisans, on va dire, du maximum des revendications. Et puis de l'autre côté, on pourrait observer ceux qui vont suivre les demandes pontificales, qui cherchent aussi à les appliquer, à les mettre en pratique, autour, par exemple, d'Étienne Lamy, un vieux républicain, mais qui est catholique, fervent, mais qui considère que il faut demander le droit commun, que le catholicisme n'est pas de droit particulier par rapport aux autres religions. Et donc tout cela crée des divisions. Est-ce que il faut, par exemple, s'unir avec des monarchistes pour la défense de la question confessionnelle? Est-ce qu'on va mettre la défense des droits des catholiques en avant? Mais alors, dans ces cas-là, la reconnaissance de la République risque de passer en arrière-plan. Ou alors, au contraire, on considère qu'il faut accepter la République, et si on l'accepte, eh bien, on va accepter beaucoup de choses, mais qui sont refusées par le pape. Toutes les lois anticléricales sont refusées par le pape. Le pape ne peut pas et se refuse absolument. Il les condamne, ces lois qu'il considère touchant les droits du catholicisme en France. Donc c'est là qu'est toute la complexité et les divisions en fait qui touchent les catholiques.
On peut considérer le ralliement de Léon XIII comme une forme d'échec?
Tout dépend en fait ce qui était recherché. D'une certaine manière, c'est un échec. D'un autre côté,
c'est ce qui va se passer.
L'un des buts l'un des objectifs, on va dire, du ralliement était de doter tout prétexte aux républicains pour combattre l'Église en France. Le pape voyait bien que l'hypothèse d'une restauration monarchique s'éloignait toujours davantage, et que les conservateurs, tous ceux qui pouvaient défendre le catholicisme en France, se divisaient, et puis surtout ne réussissaient pas à obtenir de majorité. Donc son idée était essayons tant bien que mal de sauver ce qui peut l'être encore de la situation en France du catholicisme. Il y avait un concordat qui avait été signé entre Pie VII et Napoléon, qui donc existait depuis 1801, et l'idée était aussi de sauver le concordat. Les espoirs évidemment de Léon XIII n'aboutissent pas, mais s'il s'agissait également de montrer que le catholicisme en France, ou en tout cas quand même que l'Église n'était liée à aucun système monarchique, de ce côté-là, on peut observer un esprit plus ouvert en fait par rapport à la République. Et par contre, effectivement, l'espoir de pouvoir pénétrer la République pour la christianiser, de pénétrer les institutions de l'intérieur pour pouvoir les christianiser, obtenir une majorité plus modérée et pouvoir considérer que tous les croyants avaient droit à la paix et à la tranquillité. Effectivement, de ce côté-là, la tentative de ralliement échoue. Mais c'est tout dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas aussi du fait que, finalement, il y a eu une séparation? Alors, cette séparation, elle a lieu en 1905. Léon XIII est mort depuis 2 ans. C'est Pie X qui est au pouvoir. On a l'impression que cette séparation, finalement, l'Église s'en accommode. Aujourd'hui, elle ne va pas remettre en cause cette séparation de l'Église et de l'État.
Oui, absolument. Alors, il y a eu une condamnation très forte portée par Pilis en 1906, au moment en fait de l'application de la loi de séparation, mais progressivement au fil du siècle, en fait, peut-être que il faut avoir une vision moins dure en fait de la position de par rapport à la position de Pilis. Si Pilis réagit aussi de manière aussi virulente, c'est parce que il y a une rupture unilatérale en fait d'un traité, le Concordat, qui unissait deux parties. Mais l'idée qu'il puisse y avoir à terme une séparation, en tout cas un divorce à l'amiable, on peut dire, était dans les esprits et n'était pas. Mais Pilis vraiment réagit de manière extrêmement dure parce que les conditions dans lesquelles est décidée la séparation et surtout son implication avec les inventaires est extrêmement violente. Pilis considère que c'est une offense en fait au droit du Saint-Siège. Mais progressivement, dans le cours du XXe siècle, on peut penser par exemple au pontificat de Pie XI, et puis ensuite avec la canonisation de Jeanne d'Arc. Enfin, donc il y a une série d'épisodes, d'événements qui vont réussir à redonner des, enfin à faire que la France retrouve des liens plus ou moins solides. Avec le Saint-Siège, et puis évidemment il y a la participation des congrégations, enfin du clergé, avec un tribut du sang extrêmement important qui est versé de la part de congrégations religieuses sur le champ de bataille en 1914-1918.
On va peut-être abandonner l'aspect politique et je reviens malgré tout sur ce que vous disiez à l'instant, on pense à Pie XI qui et quand il meurt, Édouard Herriot salue la conscience, enfin là le Pie XI comme une conscience pour l'humanité. Il y a finalement après le rétablissement des relations diplomatiques, un réchauffement de ces rapports.
Oui, absolument. Mais en fait, c'est déjà, on peut. En fait, le pontificat, par exemple, de Benoît XV est extrêmement méconnu. Mais déjà sous Benoît XV.
Et pourtant, considéré comme le pape boche, comme le pape qui faisait le jeu de l'ennemi pendant la Grande Guerre.
Oui, mais déjà, on peut observer un rapprochement en fait entre la France et le Saint-Siège, vraiment avec le point fort qui est la canonisation de Jeanne d'Arc, qui entraîne. Enfin, déjà, ça avait déjà été évoqué, mais on assiste en fait à la réouverture de l'ambassade de France près le Saint-Siège en 1921, donc sous le pontificat de Benoît XV. Puis effectivement, bon, sous Pie XI, on va assister à la condamnation de l'Action française, donc en 1926.
C'est une sorte de second ralliement, la condamnation de l'Action française.
Personnellement, je ne le crois pas, mais c'est effectivement, c'est dans beaucoup de, enfin dans l'historiographie, on peut le, enfin c'est considéré comme cela. Le décret de condamnation de l'Action française était déjà prêt sous Pilis, qui n'est pourtant pas considéré comme étant un pape extrêmement proche de la République française, et pourtant même déjà sous Pilis, Pilis n'a eu de cesse d'exprimer à la France son amour et d'espérer que la France revienne rétablisse ses relations qu'elle avait toujours eues à travers les siècles.
Alors il y a le lien politique, il y a le lien charnel que l'on a évoqué, hein, avec ce sentiment que la France a une forme de vocation, et il y a les liens intellectuels. Et les liens intellectuels sont très importants. Je sortais à l'instant d'une librairie qui évoquait les liens intellectuels entre les intellectuels français et le Concile Vatican II. Surtout au XXe siècle, la France est très présente dans la pensée des papes. La France intellectuelle est très présente dans la pensée des papes.
Oui, absolument. Alors, on peut pas observer, par contre, de phases particulières. Chaque pape a ses, on pourrait dire, ses auteurs préférés, en tout cas les relations qu'il peut avoir avec tel ou tel penseur intellectuel, spirituel, enfin auteur spirituel particulier. Bon, on sait que Pélisse était très influencé par des auteurs français, que ça pouvait se retrouver dans des homélies. Pie XI a un intérêt vraiment particulier aussi pour la France. Je pense par exemple au père Marie-Vincent Bernardo, qui va fonder la vie intellectuelle en France, grâce en fait à l'appui de Pie XI. On sait aussi quelles sont ses relations avec Jacques Maritain, et évidemment après la condamnation de l'Action française. Paul VI va rendre un vibrant hommage en fait à la France intellectuelle au moment du concile. Mais Paul VI, avant même d'être pape, entretient des relations avec des intellectuels français. Il connaît très bien les écrits de Jacques Maritain. Quand il est venu en France, il est venu deux fois en France pour apprendre le français, pour connaître la France aussi de l'intérieur. Et il a lu les écrits de Jacques Maritain et il les fait traduire, une fois rentré en Italie, il les fait traduire en italien. Quand il est substitut de la secrétaire d'État, et le pape Montini, enfin donc le futur pape, avait des relations. On pense par exemple au père Congar, qu'il a reçu régulièrement. Il avait des relations très intenses également avec le père Bouillet, Louis Bouillet, l'oratorien. Il connaissait également le père Danielou. Et puis quant à Jean-Paul II, on pense par exemple aux relations qu'il a pu avoir, lui par exemple, pour le coup, avec Jérôme le Jeune. On sait également qu'il était influencé par Emmanuel Mounier. Il avait une grande admiration pour le curé d'Ars, pour Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Parce que c'est aussi pour ça qu'on parlait tout à l'heure du lien charnel. Les papes connaissent vraiment la France de l'intérieur, et puis le pape François connaît, et on voit qu'il connaît très bien, pas seulement on pourrait dire de réputation, mais il connaît très bien Léon Blois, Peggy Bernanos. Quand il y a eu des entretiens assez récemment avec le sociologue Dominique Volton, et où on voit qu'il a une connaissance extrêmement fine des auteurs français. Donc la France a quand même encore, on peut dire au niveau intellectuel, un rôle à jouer. Mais pour en revenir aux intellectuels ou aux spirituels au moment du concile, effectivement l'hommage que rend le pape Paul VI à Saint-Louis des Français dans le discours, donc c'est en mai, je crois, mai 1964, le pape dans son discours dit voilà, la France est ce lieu où, enfin, est le four où se cuit le pain de la chrétienté, et il continue son discours en disant c'est grâce aux théologiens dans le domaine de la théologie, dans le domaine de la liturgie, c'est grâce à eux en fait que le concile peut vraiment fonctionner.
Est-ce que les papes voyaient dans ces intellectuels, dans ce mouvement, une forme de contre-culture? À un moment, le pape Jean-Paul II, je crois, en janvier 81, vous citez, au séminaire français de Rome, le pape Jean-Paul II dit « Vous enrichissez votre réflexion d'éléments solides et de méthodes absolument indispensables pour vous éviter à vous-même d'être emporté à tout vent de doctrine, pour être en mesure de prêcher, d'enseigner, de guider sûrement la réflexion des laïcs chrétiens dans le dédale des courants d'idées et des mœurs actuelles. » Jean-Paul II parle à une époque bien précise, le communisme est toujours au pouvoir sur une partie de la terre finalement. Il y a également le relativisme des sociétés occidentales qui commence à poindre. Est-ce que les papes considéraient le monde intellectuel français comme un monde de contre-culture face à ces mouvements?
Alors je ne parlerai pas forcément de contre-culture, mais simplement Alors en fait, il faut distinguer deux éléments, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a le discours de Jean-Paul II au séminaire français, donc il y a aussi par rapport aux instituts catholiques, ou en tout cas aux lieux de formation plus spécifiquement catholiques, considère qu'il faut vraiment que ces lieux cultivent vraiment l'excellence. Il y a des discours de Jean-Paul II à l'Institut catholique de Paris, à des membres ou des représentants de l'université catholique de Toulouse, par exemple, en considérant donc vraiment qu'il faut qu'il y ait des lieux d'excellence de formation pour que les futurs prêtres soient vraiment formés avant d'être, on va dire, jetés dans le monde. Et puis il y a effectivement par rapport aux intellectuels laïcs, qui peuvent être des intellectuels catholiques, bien sûr. Cette idée qu'ils doivent être lumière pour le monde, ce n'est pas une contre-culture, mais ils doivent éclairer ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne travaillent pas forcément. C'est pas forcément ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui ne travaillent pas forcément dans le même domaine. Et donc les intellectuels ont ce rôle d'être vraiment j'ai en tête par exemple des discours qui sont tenus à des membres de l'école française de Rome, que ce soit par exemple par Pilouze, qui a suivi des cours et qui explique, et c'est là où on voit également qu'il y a vraiment des relations très fortes entre les papes et puis des lieux de formation. Pilouze expliquant qu'il a reçu des cours, qu'il a suivi des cours de Monseigneur Duchesne, donc à l'école française de Rome, et il y a des relations très fortes existant justement dans ces lieux de formation d'excellence, mais des lieux de formation laïques par lesquels la France brille à l'étranger, mais en considérant que ils ont aussi ce rôle par rapport à l'Église. En fait, Pilouze explique aux membres de l'école française que l'Église n'a rien à craindre des travaux historiques, l'Église n'a pas peur de la vérité, et que justement s'ils leur rend hommage, c'est justement à cause du rôle et du bien que peuvent faire non seulement à l'histoire, ce qu'ils peuvent apporter à l'histoire, mais également ce qu'ils peuvent apporter à l'Église, de ne pas continuer à cultiver des mythes, des choses historiquement fausses. Voilà, donc c'est effectivement, il y a cette perception que les intellectuels doivent être lumière pour les autres, en fait. Mmh. Et c'est pas une contre-culture, c'est une culture à part entière.
Mmh. Il y a un moment très important dans votre ouvrage, dans lequel vous présentez, je vous cite, le pape étant à la fois chef d'État et successeur de Pierre, les discours pontificaux suivent donc une double direction, vers la France politique et vers la France catholique. Et cette notion de double discours est très importante. Ce n'est pas, c'est plutôt un discours double plutôt qu'un double discours.
Oui, absolument. Effectivement, l'expression n'est pas forcément extrêmement très heureuse, mais je ne voyais pas comment l'exprimer d'une autre manière.
Ça ne veut pas dire qu'il y ait une contradiction.
Il n'y a pas de contradiction, mais c'est-à-dire qu'effectivement, le pape va considérer, enfin, au fil du siècle, on va considérer que les demandes en direction de la France politique ne vont pas forcément être les mêmes, sans qu'il y ait effectivement forcément contradiction, que par rapport à ce qui va être dit à des pèlerins, à des lors d'une canonisation, lors d'une béatification ou lors de visites de pèlerins français, le pape ne va pas forcément s'exprimer de la même manière. Mais on va pouvoir vraiment observer une évolution, parce que il y a des discours de Pilouze à des diplomates qui montre qu'aujourd'hui effectivement les papes ne s'exprimeraient pas de la même manière dans les attentes. Quand on voit les discours de Pilouze par exemple à Jacques Maritain, ambassadeur de France près le Saint-Siège, en espérant que la France soit parmi les nations un modèle notamment de renouvellement et de dynamisme spirituel et intellectuel. Les discours évoluent en fait au fur et à mesure aussi de l'évolution de la société française, sans qu'il y ait contradiction. On continue à rendre hommage à la France, mais on va considérer que on va espérer de la France un engagement plus porté sur le développement, enfin le soutien aux pays en voie de développement, l'appui effectivement sur d'autres sujets, par exemple l'accueil des, on pourrait dire aujourd'hui l'accueil des migrants. Donc il y a une évolution, effectivement au fil du siècle, et puis une évolution aussi par rapport peut-être à la pensée également de l'Église, qui va plus effectivement se restreindre sur sa mission spirituelle, et qui va plus se porter effectivement cette idée qu'il doit être je pense par exemple à des discours qui peuvent être tenus à des ambassadeurs français sur le rôle du politique, à des discours de Jean-Paul II par exemple ce que doit être en fait le rôle du politique en France, ou par exemple aussi Benoît XVI évidemment que vous connaissez bien, mais par rapport au relativisme et ce que doit être, enfin rappelant également. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, rappelant aux Français qu'ils ne doivent pas forcément valider tout ce qui se fait, tout ce qui se pense, voilà.
Il y a un moment, nous arrivons, Martin Dumont, au terme de cette émission, et je souhaiterais vous poser une dernière question relative précisément à ce lien, et encore une fois à ce discours double qui n'est pas forcément un double discours. Vous citiez les textes de Jean-Paul II, il y en a un que vous reprenez qui dit « Il y a certes, Jean-Paul II, on est en 88, il y a certes distinction entre les domaines civils et religieux, mais non pas séparation. » Je citais en tout début d'émission la phrase de François sur la laïcité, c'est-à-dire que, comme dans la continuité de Benoît XVI, dans la continuité de Jean-Paul II, il ne faut pas qu'il y ait un laïcisme. Et il y a eu, d'ailleurs, sous Benoît XVI, avec Nicolas Sarkozy, une laïcité dite positive. Est-ce à dire, au fond, un peu comme l'expliquait ou le souhaitait plutôt Jean-Paul II, que la République devrait peut-être franchir un pas, comme le demande le pape François, pour que, au-delà de cette séparation de 1905 qui est acquise aujourd'hui, il y ait une reconnaissance du fait religieux comme un fait essentiel des sociétés?
Oui, je crois qu'absolument il y a une continuité dans la pensée de François par rapport à Benoît XVI, par rapport à Jean-Paul II, qu'on ne met pas forcément toujours en avant, mais qui est véritablement effectivement une continuité. Le pape François considère que la laïcité ne doit se concevoir que il faut qu'il y ait en fait une ouverture à la transcendance, donc ce qui n'a guère à voir effectivement avec forcément une laïcité dure ou une laïcité fermée. Il y a eu des débats très importants qui ont eu lieu qui ont toujours cours en France actuellement sur ce que doit être la laïcité, et François espère en fait que la France évolue sur ces positions, en considérant qu'elle n'a rien à perdre et que les croyants doivent pouvoir s'exprimer librement, et que ils sont citoyens et croyants, c'est pas ou citoyen ou croyant, c'est les deux en même temps. Il ne parle pas de laïcité positive. Il considère que l'État doit être laïque. Voilà. L'Église a sans doute évolué, en tout cas par rapport au mode d'expression qui pouvait avoir lieu dans les premières années du XXe siècle. Mais il n'y a pas vraiment, en fait, d'opposition et de changement par rapport à ce qui se disait dans ces premières années. L'ouverture à la transcendance doit véritablement porter en fait chaque être humain à ce vers quoi il est destiné normalement, et dans l'esprit de François c'est réellement cela, l'ouverture à la transcendance, c'est l'ouverture vers le Créateur en fait.
Merci beaucoup, Martin Dumont. Donc la France dans la pensée des papes, une une excellente vision des rapports entre la papauté, donc la ville éternelle, et la ville lumière, Paris, paru aux éditions du Cerf, La France dans la pensée des papes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, et je conseille véritablement la lecture de cet ouvrage, parce qu'à mon sens c'est le meilleur qui ait été écrit sur la question, sur le ralliement, donc le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement 1890-1902, un ouvrage paru chez Honoré Champion. Merci beaucoup, chers auditeurs, merci pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.